Bonjour.
Bonjour, préférez le train à l'avion pour faire des économies. C'est l'option étudiée par Roche pour réduire les frais imputables aux déplacements aériens de ses managers. Le groupe pharmaceutique balois est confronté à une véritable explosion de son budget billet d'avion. Nous ferons le point avec Muriel Balaman et nous recevrons Gerhard Toubante, porte-parole de l'association Transport et Environnement. Toujours au menu de ce journal, le jugement attendu d'une minute à l'autre dans le procès du meurtrier présumé d'une jeune sans-papiers sud-américaine à Genève. Nous parlerons aussi de l'appétit modéré de la Poste dans ses projets de développement à l'étranger et de l'annonce ce matin de la création d'une centaine d'emplois dans les biotechnologies du côté de Bulle, dans le canton de Fribourg. Dernier volet aujourd'hui de notre série d'entretiens avec des écrivains édités grâce à la plateforme communautaire My Major Company Books, qui permet aux internautes de sponsoriser les auteurs et de financer l'impression de leurs livres. Nous recevrons Al Coriana pour son livre No Life, l'histoire d'un homme accro au monde virtuel, déconnecté de la réalité et rattrapé par la vraie vie et ses dangers. Il sera notre invité en direct à la fin de ce journal. Des nuages, encore quelques gouttes de pluie et deux petites percées de soleil. C'est en substance le menu météo du jour. Les maximales seront comprises entre 7 et 12 degrés en pleine. Retour des averses généralisées cette nuit et demain avec une limite plus neige qui remonte aux alentours de 1600 mètres. On annonce à nouveau de la neige jusqu'en pleine vendredi, nous dira Stéphanie Koller. Les managers de Roche sont donc menacés d'interdiction de vol. La presse alémanique rapporte ce matin que le groupe pharmaceutique balois redoute une augmentation des frais imputables aux voyages d'affaires aériens. C'est donc l'aspect économique et pas écologique qui prime dans cette réflexion, Muriel Balaman.
Oui, en seulement une année, Roche a vu le nombre des vols de ses managers augmenter d'un cinquième. Le compteur a enregistré 160 millions de kilomètres de vols pour 20 000 déplacements. Selon le responsable des voyages de la pharma, un tiers de ces vols est imputable à 80 employés. Ils font plus de 20 voyages en avion par an. Point d'orgue lors du deuxième semestre de 2009, après l'achat de l'entreprise Genentech, dont le siège est à San Francisco aux États-Unis, le coût des voyages a atteint 58 millions de francs.
Et Roche veut éviter que ces frais de déplacement s'envolent.
Les managers de la pharma sont à l'avenir priés de préférer le rail aux airs quand ils voyagent en Europe. Les principales métropoles européennes sont en effet atteignables en 5 heures avec un train partant de Bâle. Selon la porte-parole de l'entreprise pharmaceutique, le règlement concernant les voyages est en cours de révision. D'autant plus que Roche avait un but avoué, diminuer la consommation d'énergie de 10% par employé d'ici 2014. Cette nette augmentation de vol va à l'encontre de cet objectif. Ce tour de vis s'inscrit dans le plan d'économie de l'entreprise pharmaceutique. Elle a prévu de biffer dans les deux prochaines années 4800 places de travail, dont 530 en Suisse.
Muriel Balaman en direct de nos studios de Bienne. Nous sommes en ligne avec Gerhard Toubante. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le porte-parole de l'ATE, l'Association Transport et Environnement. Une réaction d'abord à ces recommandations de Roche, privilégier le train plutôt que l'avion, c'est une bonne nouvelle?
C'est bien sûr une bonne nouvelle parce que du point de vue écologique, le train est préférable sur tous les niveaux. Le train émet moins de CO2, il n'émet pas des substances nuisibles comme l'oxyde d'azote ou des particules fines. Et en plus, le train est beaucoup plus économique en consommation d'énergie.
Cette décision, on l'a vu, elle a été prise pas pour des raisons écologiques, mais pour des raisons économiques. C'est pas grave, pourvu qu'on choisisse des moyens de transport finalement plus respectueux de l'environnement.
Bien sûr, c'est les deux facteurs sont importants parce que on peut aussi dire que le train coûte moins, en plus d'être ou à peu près autant que l'avion, en étant plus écologique.
On a tendance à croire que l'avion est toujours plus rapide que le train, mais c'est pas forcément le cas quand on compte notamment l'attente dans les aéroports.
Non, c'est pas le cas. Si vous prenez par exemple, dans une demi-heure, il y a un train qui part à Zurich, qui arrivera à 17h34 à Paris-Est. Donc là, on a 4h30 pour se rendre à la capitale. Donc en avion, c'est à peu près la même chose. Si vous calculez qu'il faut se rendre à l'aéroport à temps et plus, en plus, il faut faire ça en avance, être en avance au check-in. Après, il faut se rendre de Charles de Gaulle à Paris. en centre-ville, donc c'est à peu près le même trajet.
Un passager d'avion émet deux fois plus de CO2 qu'en voiture, six fois plus qu'en train, en métro ou en bus. Bon, il y a quand même des destinations qu'on ne peut pas éviter, on est obligé de prendre l'avion. Qu'est-ce que vous recommandez dans ces cas-là de payer, par exemple, pour compenser les émissions de CO2 ?
Compenser les émissions de CO2 est bien sûr une solution. Il y a des autres idées. On peut faire des conférences par vidéo, ce qui permet même de relier des personnes de différents endroits sur toute la Terre, si jamais c'est possible pour des entreprises mondiales comme Roche, par exemple. Donc, surtout des conférences vidéo peuvent même...
Là, ça fait encore plus d'économie. Merci beaucoup, en tout cas, Gerhard Touban, d'être venu quelques minutes dans ce journal porte-parole de l'ATE, l'Association Transport et Environnement. Bon après-midi à vous. Merci.
Apparemment, merci.
À Genève, la Cour d'assises vient de rendre son jugement contre le Péruvien de 44 ans, reconnu coupable hier soir du meurtre d'une jeune sans-papier sud-américaine. Mathieu Cuplin, vous êtes en direct du Palais de Justice. À quelle peine a été condamné l'accusé ?
Oui, alors le jugement vient de tomber. L'accusé, reconnu coupable de meurtre, vous l'avez dit, a été condamné à 16 ans de réclusion. La cour d'assises, qui siégeait pour la dernière fois et qu'en jury populaire, a fait preuve de sévérité avec cette peine. Elle a presque rejoint le procureur qui avait requis hier soir 20 ans de prison. Ce qui a été souligné par la cour, c'est la personnalité dangereuse et manipulatrice de José, l'accusé, un homme défini par les experts comme psychopathe et mythomane. Ce Pérouvien de 44 ans n'a pas seulement tué, il a aussi terrorisé plusieurs femmes avec à son actif violence, viol et séquestration. Mais José est donc condamné principalement pour le meurtre d'Olga, une jeune sud-américaine de 24 ans avec laquelle il avait eu un enfant. Elle aurait été tuée dans une cave avec une arme à feu, mais son corps n'a jamais été retrouvé et l'accusé n'a pas fait la lumière sur ce point crucial durant le procès. La cour a jugé enfin le risque de récidive élevé. C'est pourquoi elle a prononcé un internement de sécurité à l'encontre de José, ce qui veut dire qu'il ne pourra pas quitter la prison tant que les experts psychiatres le jugeront dangereux pour la société.
Mathieu Cuplin en direct du Palais de Justice de Genève. Consolider sa position sur le marché suisse et se développer doucement à l'étranger, c'est la stratégie d'entreprise adoptée par La Poste pour les 3 prochaines années. Le géant jaune s'est fixé pour objectif de réaliser 700 à 800 millions de francs de bénéfices par an, dont 11% à l'extérieur de la Suisse. Cette fameuse stratégie de développement à l'étranger avait suscité, on s'en souvient, des débats enflammés l'an dernier, d'où le ton très mesuré observé aujourd'hui. À Berne, Christelle Domangeau.
Pas de prise de risque, agir avec précaution et de façon progressive. Les mots des patrons de La Poste aujourd'hui se veulent prudents et rassurants après la tempête du début d'année. On se souvient de l'idée très controversée de l'ancien président du conseil d'administration de La Poste, Claude Béglé, qui imaginait financer le service public en Suisse avec de l'argent gagné à l'étranger. Deux membres du conseil d'administration avaient démissionné pour protester contre cette stratégie et Claude Béglé a été contraint au départ. Aujourd'hui, le ton se veut beaucoup plus modéré. La Poste envisage d'occuper des marchés de niche à l'étranger, essentiellement pour faciliter l'accès au réseau mondial aux clients suisses de La Poste. L'investissement financier se veut faible et la croissance des revenus escomptée se chiffre en dizaines de millions de francs, soit 11% du bénéfice de l'entreprise. Pas de grand engagement en perspective, pas de politique expansionniste. La Poste mise aujourd'hui sur la consolidation.
Économie encore avec une bonne nouvelle pour la région de Bulle dans le canton de Fribourg. La ville abritera le centre mondial de production biotechnologique du groupe pharmaceutique belge UCB. Une annonce faite ce matin par la promotion économique fribourgeoise. La construction de cette nouvelle usine devrait créer 120 à 140 emplois à Aline Bassin.
Oui, 250 millions d'euros, quelques 314 millions de francs vont être investis par UCB dans la construction de ce nouveau centre. Un centre qui sera réalisé en deux étapes d'ici 2015 et qui sera dédié à la production du Cimzia. Ce médicament permet de traiter les symptômes de deux maladies, la maladie de Crohn, une infection du tube digestif, et puis la polyarthrite rhumatoïde. Il s'agit d'un mal qui touche les articulations. Le groupe pharmaceutique belge UCB est implanté en Gruyère depuis 15 ans. Il y emploie déjà plus de 200 personnes. À sa grande satisfaction, selon la promotion économique fribourgeoise, c'est l'un des éléments qui a permis à Bulle de remporter la mise. La ville était en concurrence avec plusieurs autres sites en Europe et en Asie. Au terme d'une année marquée par la fermeture de l'usine Cardinal, la nouvelle tombe à point nommé pour le canton de Fribourg, d'autant plus que les 120 à 140 emplois qui seront créés sont des emplois très qualifié et qu'il s'intègre à merveille dans sa stratégie, une stratégie axée sur la haute technologie et l'innovation.
Barack Obama a félicité les Irakiens cette nuit pour la formation d'un gouvernement d'unité nationale. Le président américain estime qu'il s'agit d'un moment important de l'histoire du pays et d'un grand pas en avant pour faire progresser l'unité nationale. À Bagdad, la prudence est de mise, sachant que la population a dû attendre 10 mois pour que ce nouveau cabinet puisse être formé. Pas de quoi s'enthousiasmer donc, Anne-Sophie Lomoff.
Après des mois d'embrouillo politique, l'Irak est doté depuis hier d'un gouvernement. 29 cabinets ministériels répartis selon des critères communautaires et compromis entre partis politiques. Le but, enrayer le terrorisme et reconstruire une économie qui repose à 90% sur la production du pétrole. Pour l'ensemble des Irakiens, c'est le soulagement, l'espoir d'en finir avec les violences et de voir leurs conditions de vie s'améliorer, comme l'explique Walid al-Maliki, enseignant à Bagdad.
Nous avons besoin de services comme l'électricité. Ils doivent réparer le système électrique. Nous avons besoin aussi de sécurité, ce qu'il y a de plus important. Nous avons tous besoin de trouver un emploi, mais en général, les services. C'est ce que nous attendons du nouveau gouvernement.
Pour certains, difficile d'oublier le sang versé, la corruption généralisée et l'absence d'infrastructures qui blessent au quotidien. Abou Azem est chauffeur de taxi dans la capitale. Pour lui, aucun changement en vue.
C'est un mauvais gouvernement, tous des traîtres. Il y a toujours les mêmes ministres, ils ont juste changé de poste. Celui-là remplace celui-là, mais franchement, aucun changement. Notre espoir, c'est qu'il y ait des gens qui viennent servir leur pays, qu'il n'y ait pas de traîtres qui s'accordent avec les Américains ou les pays voisins.
Les Irakiens misent tous leurs espoirs sur ce gouvernement sans pour autant être dupes. Ils le savent, la joie laisse souvent place à la désillusion. Anne-Sophie Lemoff, Radio Suisse Romande, Bagdad.
Manon Schick sera la nouvelle directrice de la section suisse d'Amnesty International. Actuellement porte-parole de l'organisation, elle prendra ses fonctions le 1er mars pour succéder à Daniel Bolomé qui s'occupera pour sa part du management global d'Amnesty et de son développement sur le plan international.
Le 12-30, David Racana.
Suite de notre série de reportages dans les pays où la religion chrétienne est minoritaire, direction la Côte d'Ivoire, où le conflit qui mine le pays depuis 10 ans a parfois été qualifié de religieux, entre le nord musulman et le sud chrétien, alors que les imams et les prêtres tentent au contraire de s'unir pour éviter les guerres de religion, Gaëtan Vanet.
Alors que les partisans et les troupes des deux présidents sont dans un face-à-face tendu, les religieux de toute confession tentent de modérer les tensions. L'abbé Augustin de l'archidiocèse d'Abidjan.
J'ai appris, par exemple, depuis hier, une mosquée qui a reçu, une décharge. On ne sait pas si c'est une balle perdue, mais nous avons été tout de suite informés. Et nous allons nous réunir pour rencontrer les autorités pour leur dire, l'église, le temple, les mosquées, ce sont des choses sacrées. Il faut faire attention. Et nous parlons de la même voix. Et c'est une force aussi. Les gens attendent beaucoup de nous. Nous avons parlé ensemble, nous avons demandé aux gens de ne pas être violents, d'aller voter. Et puis nous avons demandé aux gens d'accepter le résultat des urnes. Même si ça n'a pas été fait actuellement, il y a des problèmes. Mais quand même, nous sommes beaucoup écoutés parce que nous sommes unis.
Depuis 2002, les religieux ivoiriens font tout pour éviter que la religion devienne l'otage de ce conflit ou l'un de ses prétextes. Toutes confessions confondues, ils travaillent ensemble au sein du Forum de confession religieuse. L'abbé Augustin y siège, aux côtés de l'imam Kounous Kone, qui en est le représentant pour l'islam.
Cette collaboration et ce forum a contribué beaucoup à l'apaisement de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. En 2002, quand la guerre a déclenché entre les militaires, c'était le 19 septembre 2002, mais beaucoup de gens, les Occidentaux surtout, ont cru que c'était une guerre religieuse. De quoi ils disent que c'était le nord musulman contre le sud chrétien. Ce forum-là, de confession religieuse, musulman, chrétien, comme un seul homme, nous sommes levés pour sillonner toute la Côte d'Ivoire pour dire à la population que cette guerre-là n'a rien à voir avec la religion, n'a rien à voir avec l'ethnie. Cette guerre-là reste militaro-militaire. Et vous le savez bien qu'il y a deux guerres qui ne finissent jamais. C'est la guerre à la base religieuse et la guerre à la base ethnique. Car les religions continuent et l'ethnie continue.
Pour les fêtes, l'abbé Augustin et l'imam Koudrouz devraient se retrouver pour une fête commune, comme ils l'ont fait l'an passé. Les deux présidents de Côte d'Ivoire, eux, ne le feront certainement pas.
Un dossier signé Gaëtan Vanet, tout juste de retour de Côte d'Ivoire. Les premiers amours, les relations avec les parents, les copains, l'angoisse de l'avenir, ce sont quelques-unes des thématiques abordées par la réalisatrice genevoise Béatrice Bakhti dans son documentaire « Roman d'ado » diffusé dès ce soir sur la TSR. De 2002 à 2008, elle a suivi sept adolescents d'Yverdon qui se racontent face caméra. Si la ville est aujourd'hui très fière d'avoir servi de décor au film, certains élus étaient sceptiques à l'annonce du projet, Magali Philippe.
Si ça se passe pas vraiment ma vie comme je l'avais prévu, ça va carrément me faire un choc.
Ils sont donc sept, Rachel, Tiss, Xavier, Virginie, Mélanie, Jordan et Aurélie. Sept ados comme les autres qui tous habitent Yverdon-les-Bains. Une ville dont l'équipe de production du film souhaitait obtenir des aides financières. Mais le municipal à l'époque en charge de la jeunesse, Daniel von Siebenthal, n'était pas très emballé par le concept du film.
J'étais extrêmement dubitatif par rapport à ce projet parce que je voyais pas très bien où les réalisateurs, producteurs voulaient en venir. Ça paraissait vraiment être un projet un peu fou comme ça. Et c'est vrai que pendant quelques temps, j'ai fait un peu la sourde oreille en me demandant quelle équipe venait à Yverdon pour filmer des jeunes, alors qu'on était dans une période un peu difficile par rapport à cette question-là, avec l'affaire Michael, avec le problème d'incivilité qu'on connaissait. Donc j'avais un peu peur qu'on entre dans un système de nouveau de dévalorisation de la ville ou de mise en exergue de certains points négatifs.
J'ai un peu peur de rentrer dans le moule, mais bon, je vais bien finir par faire comme les autres.
Mais Yverdon a tout de même accordé son soutien financier au projet Roman d'ado. Et Daniel von Siebenthal a peu à peu changé d'avis pour devenir au fil du tournage l'un des plus fervents fans de ce documentaire original. Et aujourd'hui, celui qui est devenu syndic depuis a conscience de l'image positive que ce film donne de sa ville.
Alors je pense qu'il est déjà extrêmement positif sur le plan interne à la ville, pour que les jeunes se rendent compte que finalement les problèmes que rencontrent leurs copains, leurs camarades, sont pas très éloignés de ceux qu'ils vivent eux-mêmes, et puis que il y a des solutions, et puis effectivement sur le plan plus général, c'est une très très belle carte de visite où on découvre peut-être Yverdon-les-Bains sous un autre visage, et qu'on arrive à finalement dépasser les a priori qu'on pourrait avoir.
Il a réussi à me dire je t'aime.
Et le premier épisode de Roman d'ado, c'est à voir ce soir à 20h10 sur TSR1. Pin-up, corset, tatouage, rondeur et postiche, le burlesque revient en force au cinéma avec le film éponyme de Steven Antin qui sort aujourd'hui sur les écrans Roman avec Cher et Christina Aguilera au générique. Après tournée de Mathieu Amalric, acclamé au dernier festival de Cannes, le 7e art se penche à nouveau sur le new burlesque, apparu dans les années 90, Pierre-Étienne Joie.
Il y a eu Rabelais et Scarron en littérature, Charlot ou Buster Keaton au temps du cinéma muet, genre humoristique. Plus rien à voir, le qualificatif reste pour décrire un mouvement vestimentaire assimilé aux mannequins des années 50. Ces pin-up, on les retrouve à la fin des années 90, place au striptease. Striptease dans un genre qui amalgame le style folie bergère du début du XXe siècle, cette mouvance ressurgit en France et aux États-Unis avec tournée il y a quelques mois et maintenant avec burlesque.
On y va les filles, on a un choix donné, on bouge.
C'est vous Tess?
Et vous êtes dans mon miroir parce que
c'est la première fois que je vois un truc pareil.
Bel enthousiasme, afro timing.
Ce revival inclut toute la démesure du genre, tatouage, effeuillage, spectacle extravagant, pose démonstrative, mise en scène suggestive. Les looks à succès de Lady Gaga ne sont pas étrangers à ce retour de mode dans une certaine mesure. On plonge dans l'univers du cabaret moderne avec une touche rétro certaine pour donner du fascinant à ce milieu extraverti. Avec burlesque, le casting comprend Christina Aguilera dans un premier rôle au cinéma. Elle joue Ali Rose, engagée comme serveuse dans une boîte néo-burlesque tenue par Tess, interprétée par Cher. Pas besoin de laisser planer le doute, la nouvelle voudra faire de la scène.
Tu veux me montrer ce que tu vaux? Vas-y, je suis là.
Et il y parviendra, bien sûr.
Descendez le rideau, allez vite, on se dépêche.
Attends. Lève le rideau.
Burlesque avec Cher et Christina Aguilera sort aujourd'hui sur les écrans Roman. À 3 jours de Noël, c'est la course aux achats de dernière minute. Les cadeaux électroniques seront nombreux sous les sapins cette année, mais les jouets traditionnels résistent plutôt bien. Ils sont plébiscités par une clientèle soucieuse d'offrir de la simplicité, du temps et de l'imaginaire aux enfants. Le reportage de Jérôme Jeanmain.
Jouets en bois, jeux de cartes, jeux de construction ou de société, les jouets traditionnels ne sont pas morts, loin de là. De nombreuses personnes font de la résistance. C'est le cas de Solange, rencontrée dans un magasin de jouets du centre de Lausanne.
Je trouve que l'électronique, ça isole les gens les uns des autres, et notamment les enfants qui n'apprennent pas spécialement à communiquer avec ce genre de choses. Alors je préfère leur offrir, même si c'est peut-être pas très mode, des jeux où ils peuvent communiquer avec leurs frères et sœurs, leurs amis, et faire fonctionner leur imaginaire.
Et comme Solange, de nombreuses personnes s'en reviennent d'ailleurs aux jeux collectifs qui permettent de se réunir autour d'une table, en famille ou entre amis. Autre tendance intéressante, le retour à une certaine forme de simplicité. Karine Char, vendeuse dans le même magasin.
On a aussi de plus en plus de gens qui demandent des choses sans pile. Cette année, on a vendu beaucoup de poupées sans les fonctions, justement des choses plus classiques. Les enfants sont déjà tellement stimulés que finalement, on cherche des choses aussi où eux, ils peuvent vraiment se créer leurs histoires, leur imaginaire, sans être toujours harcelés par l'électronique.
Pas question pour autant de déclarer la guerre à l'électronique, mais plutôt la volonté d'offrir une alternative à l'omniprésence de la technologie. C'est ce que nous confirme une autre Karine, cliente, elle, dans un autre magasin lausannois.
On a un peu des deux, jouets plastiques, jouets bois. Je crois qu'il faut savoir rester avec son temps et puis en même temps à faire profiter les enfants de belles choses. Par exemple, un petit berceau en bois pour les poupées. J'ai toujours été sensible aux produits artisanaux. Et je trouve que ça embellit, que ça met du baume au cœur.
Faire rêver les enfants tout en respectant les principes éducatifs des parents. Le 21e siècle sera responsable ou ne sera pas. Samuel Safor, le patron du même magasin.
Il y a vraiment une clientèle fidèle qui recherche en fait des produits de proximité, de permettre à l'enfant, pas qu'il soit matraqué par plein de choses, mais de lui laisser le temps de jouer et de découvrir un univers qui lui est propre. Et puis c'est une manière de dire aussi que l'enfant, c'est pas seulement des cadeaux qu'il a besoin, mais c'est qu'on soit safe avec lui et puis qu'on joue avec ce qu'on lui a offert. Et puis ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire aux enfants.
Un reportage signé Jérôme Jeanmain. Demain, nous parlerons des trains électriques, des modèles réduits et du bon vieux couteau suisse qui ont aussi leur place au pied du sapin. Vous êtes juif, musulman ou catholique, me demande Kojak. Cathodique, je ne crois que ce que je vois à la télé. Cette réplique, on la trouve dans votre premier roman, No Life. Bonjour Alcoriana.
Bonjour.
Vous êtes en duplex de nos studios de Paris. Votre livre est publié chez Exo Éditions grâce à la plateforme communautaire My Major Company Books qui permet, on le rappelle, aux internautes de sponsoriser les auteurs, de financer l'impression de leurs romans. On va d'abord rappeler ce que c'est un No Life.
Alors oui, un no-life, c'est indispensable de donner la définition. Un no-life, c'est quelqu'un qui sans vie, étymologiquement, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui passe toute sa vie devant l'écran. Sa vraie vie, c'est tout ce qu'il voit à travers Internet, les jeux vidéo, les vidéos, etc. Donc c'est quelqu'un qui oublie sa vraie vie, c'est quelqu'un qui oublie de manger, de se laver, etc. Donc il faut savoir que les no-life existent déjà, et dans mon livre no-life, c'est extrapolé. Mais le premier no-life qui a eu de gros problème de santé, c'est-à-dire il est décédé, c'est en 2006, c'était un Coréen qui avait joué 11 jours d'affilée à un jeu vidéo, mort de déshydratation. Ça, c'est dans le livre aussi. Voilà, c'est ça, No Life.
L'histoire se situe quelque part dans ces prochaines décennies, un peu plus tard, donc dans l'avenir, où Internet domine nos vies, les No Life sont de plus en plus nombreux. C'est comme ça que vous voyez l'avenir, vous ?
Oui, enfin, j'espère qu'il sera un peu différent parce que c'est vrai que ça, c'est dans nos lives, ça fait assez peur. J'ai beaucoup de parents d'enfants, de jeunes adolescents qui disent, ça m'a beaucoup intéressé votre livre, mais ça m'effraie un peu parce que moi, mon gamin, il est tout le temps devant Internet. C'est une façon d'attirer l'attention sur ce problème-là et aussi de voir que Internet, c'est vraiment quelque chose qui a un potentiel extraordinaire et qu'il faudra forcément pas dominer, mais encadrer ou surveiller de très près. Donc c'est vraiment le personnage principal de mon roman No Life, parce que c'est par Internet que passeront déjà des systèmes, pas totalitaires, mais sécuritaires, de manipulation, des choses assez intéressantes, mais qui sont, c'est vrai, effrayantes.
Et justement, dans votre livre, Alcoriana, on crée des souvenirs dans l'esprit des no-life. Tout le monde est fiché partout. Ça donne quand même la chair de poule.
Oui, effectivement. Mais j'ai pris des choses qui existent déjà. Par exemple, les cookies traceurs qu'il y a sur Internet qui arrivent à repérer si vous-même, par exemple, vous achetez un cahier, un stylo, on sait exactement ce que vous avez acheté et puis on vous trace commercialement. Ben, il suffit d'extrapoler et de voir que ben, on arrivera à savoir ce que vous faites, ce que vous mangez, combien de temps vous êtes chez vous ou à l'extérieur. C'est des choses qui existent déjà. C'est pour ça qu'il faut être assez vigilant. Et c'est ce qui donne son charme à No Life, parce que c'est un thriller avec beaucoup de rebondissements, mais toujours avec cette technologie que nous connaissons, mais qui prend le dessus sur l'histoire policière. Et c'est ce qui est intéressant dans ce livre-là.
C'est un livre, finalement, on va dire, assez pessimiste sur notre avenir. Paris est ultra pollué, les émissions de CO2 prennent l'ascenseur, le niveau de la mer a tellement augmenté que la Statue de la Liberté a même les pieds dans l'eau. Vous avez une vision tout de même assez sombre du futur ?
Bah, c'est pas une vision sombre. Comme c'est une fiction, c'est peut-être de donner un cri d'alarme, en fait, quelque chose de si on ne prend pas les choses en main, bah, peut-être que No Life existera dans tous ses aspects écologiques, sécuritaires, par rapport à Internet. Donc non, c'est pas une vision négative, parce que si vous regardez bien, enfin si vous lisez le livre jusqu'à la fin, vous voyez la fin du livre donne une petite lueur d'espoir.
Donc on arrive à effacer toutes les données.
Oui, exactement. Donc du coup, donc vous l'avez lu, c'est très bien, ça me fait plaisir.
On essaye.
Donc, si vous voulez, c'est un constat, c'est une extrapolation qui peut sembler négative, mais il y a une lueur d'espoir, et puis c'est une fiction qui est haletante, qui donne envie de savoir la suite, mais surtout, moi j'aime bien écrire des choses qui font réfléchir derrière. Qui font réfléchir.
Ce livre parle des accros au monde virtuel. Quel rapport vous avez vous-même avec ces technologies, Alcoriana ?
Bah, c'est très simple. Moi, j'étais un utilisateur normal, on va dire, pas très excessif. Mais comme j'ai écrit ce bouquin alors que j'étais à l'hôpital, et à l'hôpital, j'ai dû réapprendre à marcher, etc. Vous n'avez pas beaucoup de temps pour faire autre chose.
Ah.
Par Internet, et donc je me suis mis dans la peau du personnage de quelqu'un qui vit par Internet, c'est-à-dire qui achète, qui communique, qui drague, qui fait tout par Internet. Et donc du coup, bah, j'étais dans la peau d'un no-life, et il suffisait juste que j'écrive, bah, dans certaines situations, ce que je ressentais.
Ce livre, vous l'avez écrit après un accident de moto qui vous a cloué au lit, oui, pendant 18 mois. Sans ça, vous n'auriez jamais franchi le pas, vous n'auriez jamais fait ce livre.
Bah, il faut croire que non, parce que j'écrivais d'autres choses avant, j'écrivais des spectacles, et c'est vrai que comme c'était quelque chose de triste, et moi j'écrivais des spectacles comiques, non, là c'était quelque chose qui m'a cloué sur un lit, comme si on m'avait dit, maintenant tu écris No Life, tu te dépêches.
Et ça vous a donné envie de continuer ? Je crois savoir que vous êtes déjà sur l'écriture d'un nouveau roman.
Oui, tout à fait. C'est un nouveau roman qui n'a rien à voir avec No Life, mais qui est aussi haletant. Ça sera le thème principal, c'est le changement climatique.
Donc toujours des messages un peu comme ça, écolo, préventif, c'est quelque chose qui vous tient à cœur ?
Si vous voulez, j'ai les préoccupations des jeunes d'aujourd'hui, de toute la population d'aujourd'hui. C'est des choses qui nous touchent tous. Et si j'écris, c'est certainement que ça me préoccupe, bien sûr.
Merci beaucoup en tout cas, Alcoriana, d'être venue en direct dans ce journal depuis nos studios de Paris. Votre roman No Life est publié chez XO Éditions avec My Major Company Books. Bon après-midi à vous, merci.
Merci vous aussi, au revoir.
Un mot de la bourse pour vous dire qu'à la mi-journée, l'indice SMI est en hausse de 0,14% à 6567 points, et il est temps de prendre des nouvelles du ciel. Avec Stéphanie Collère.
La journée a commencé sous un ciel couvert et des précipitations intermittentes. Les averses se sont espacées petit à petit. Quelques gouttes pourraient encore tomber cet après-midi. Les nuages resteront présents, laissant de brefs moments de soleil possibles. Le Valais central, toujours sous l'influence du Fön, verra se développer quelques belles éclaircies. Les températures seront particulièrement douces, avec des maxima qui pourront atteindre 7 degrés en plaine et jusqu'à 12 degrés dans la vallée du Rhône. Un fort vent du sud sévit en montagne et du Fön dans les vallées alpines. On attend un retour des précipitations cette nuit. Demain, le ciel reste restera très nuageux. De brèves averses devraient se manifester dans le courant de la journée. La limite des chutes de neige remontera entre 1400 et 1800 mètres. Le temps sera généralement sec dans les Alpes, même si des précipitations sont attendues sur le versant sud. On attend des averses toute la journée vendredi, avec un retour de la neige jusqu'en plaine.
La météo avec Generali.
La fondation Pierre Giannada et son exposition de Renoir à Sam Safran.
Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Demain, nous recevrons Jean-Luc Halt, responsable de la communication sur les campagnes de prévention de la Souva. Il nous rappellera les conseils de base pour profiter des sports d'hiver en évitant les accidents. Excellent après-midi à l'écoute de nos programmes. Il est tout juste 13h.